Donc, Romains 8, on va lire les quatre premiers versets. Ensuite, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Comme on te remercie, Seigneur, d'avoir des vérités précieuses à considérer ensemble encore ce matin. Merci, Seigneur, que comme ça a été prié, Seigneur, chacun ici est précieux à tes yeux. Et Seigneur, merci que l'histoire n'est pas finie, Seigneur, avec toi. Tant qu'on est vivant, tu n'as pas fini de faire des choses dans nos vies, à travers nos vies. On te prie que ce temps dans ta parole porte du fruit pour toi, par toi, à ta gloire, Seigneur, dans chacune des vies ici. Et si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau par l'Esprit de Dieu, qu'aujourd'hui, on puisse se réjouir de voir cette personne ou ces personnes passer de la mort à la vie. C'est notre prière, Seigneur. On s'attend à toi. Merci que tu réponds, Seigneur, à ceux qui t'invoquent. Et donc, c'est avec confiance qu'on s'en remet entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Christ, notre identité triomphante ». C'est la fin du thème du mois de novembre, le dernier message de novembre sur Christ, notre identité. Et je l'ai dit, hein, vraiment, Romains 8, c'est l'apogée de tout ce qui a été vu là dans les chapitres 6 et 7. Et je veux juste en mettre un petit résumé avant qu'on aille plus loin avec le nouveau matériel du chapitre 8. Vous savez que le thème du livre de Romains, c'est la justice de Dieu. Et vraiment, on peut dire que 6, 7, 8, c'est comment grandir ou marcher dans cette justice. Et dans le chapitre 6, on pourrait résumer ça, où est-ce qu'on voit la délivrance de l'esclavage du péché. Dans le chapitre 6, c'est vraiment ça. Hein, on apprend dans les 14 premiers versets qu'on est mort au péché et vivant pour Dieu. C'est la base de cette délivrance. Et maintenant, on est esclave de la justice. Paul dit, je parle à la manière des hommes, mais c'est ça. Maintenant, on peut marcher dans cette justice. Et donc, ça, c'est le chapitre 6. Le chapitre 7, c'est la délivrance de la condamnation de la loi. Hein? Quelqu'un qui veut, avec toute sa bonne volonté, essayer d'accomplir le 1, mais il se rend compte que ça ne marche pas, mais on voit comment on en est délivré, dégagé de la loi. Et on voit dans le chapitre 8 ce qu'on voit aujourd'hui, la délivrance de l'esprit, ou si vous voulez, la vie par l'esprit de Dieu, où est-ce qu'on expérimente cette délivrance. Et Christ, notre identité triomphante, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Paul, dans le début du chapitre 8 qu'on considère aujourd'hui, il rattache avec ce qui a été dit auparavant, parce qu'il dit, il n'y a donc, quand on voit un donc, ça nous rappelle, ça nous ramène à ce qui a été dit avant, il n'y a donc. Donc, sur la base de ce que j'ai dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça vient justement après qu'il ait terminé une explication sur les lois spirituelles qui tiennent le chrétien esclave, le péché, chapitre 6, puis le moi, chapitre 7, hein, le moi qui veut donc faire le bien, mais qui n'est pas capable parce que la chair le rend sans force. Et là, il conclut en affirmant que il y a une sortie de secours, hein, ce « Oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et on sait que le « qui » c'est Jésus, « grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et donc, la sortie de secours de cette lutte constante et épuisante, lorsqu'on essaye de s'en sortir nous-mêmes, c'est Jésus lui-même, Dieu fait homme, qui nous fait triompher dans ce combat. Et le chapitre 8, c'est l'explication que Paul donne sur comment cette sortie de secours, cette voie qui est Jésus-Christ, s'emprunte dans la réalité du quotidien. Dans l'expérience chrétienne, au cœur même de l'expérience chrétienne. Et ça a tout à voir avec notre identité en Jésus-Christ, notre nouvelle identité. Parce que Romains 8, si vous voulez, c'est un exposé détaillé de ce que Jésus dit dans Apocalypse 21:5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Si on est en Jésus-Christ, toutes choses sont nouvelles. On est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, on va parler de nouveautés aujourd'hui, et ces nouveautés, c'est ça le fruit de Christ, notre identité triomphante, donner une nouvelle identité, et cette identité-là, elle est triomphante. Donc, trois nouveautés de la grâce de Dieu par Christ, notre identité triomphante. D'abord, dans les versets 1 à 4 qu'on a lus, on voit une nouvelle loi. Première nouveauté, une nouvelle loi. Et quand je dis loi, c'est pas loi comme la loi de Moïse ou la loi, le code de la route ou le code pénal. Non, on parle plus de loi dans le sens comme la gravité, loi spirituelle. La gravité nous tire vers le bas, la loi de l'aérodynamique nous lève vers le haut. Et donc, cette nouvelle loi, c'est avec la loi du péché et de la mort qui me tire vers le bas comme la gravité. Verset 2, « Or, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc, cette nouvelle loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et ça, c'est le secret, c'est la source de la vie victorieuse en Jésus-Christ. Cette nouvelle loi. D'abord, au verset 1, on a cette déclaration, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cette loi-là, ça commence avec la délivrance de la condamnation du péché. Le péché ne pèse plus contre nous parce qu'on a été libéré de sa condamnation. Mais en plus de ça, verset 2 que je viens de lire, on a la délivrance du contrôle du péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement avec cette loi de l'esprit de vie, ça m'a affranchi, elle est plus forte cette loi, la gravité me tire vers le bas, la loi du péché et de la mort, mais la loi plus grande, plus forte qui m'affranchit, c'est celle de la loi de l'esprit de vie, comme la loi de l'aérodynamique. Et donc, si on regarde en mémoire, Paul qui dit, j'ai en moi cette loi, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, ben justement, par l'esprit de vie, on est affranchi, libéré de cette loi. Donc, délivrance de la condamnation du péché, délivrance du contrôle du péché. Mais aussi dans les versets 3 et 4, et j'aime tellement ces versets, on est délivré de la continuation du péché. Parce que ça nous dit qu'à cause de l'incarnation, à cause que Christ est venu faire ce que nous, on ne pouvait pas faire parce qu'il est venu dans un corps ici sur terre et dans une chair semblable à la nôtre, maintenant, chose qui était impossible à notre chair, on peut être délivré du péché. C'est l'importance de l'incarnation. Donc, la délivrance de la continuation du péché. Donc, cette lutte-là, je veux faire, mais je ne suis pas capable. Je ne veux pas faire, puis je le fais pareil. Mais on est délivré de ça, de cette lutte, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui habite en nous, les enfants de Dieu. Et ça, comprenez bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'absence de péché dans notre vie, ou même de lutte. Okay, on ne croit pas que, il y a l'expression « sinless perfection », on ne pense pas que lorsqu'on est sauvé, on n'a plus de péché, puis ça n'existe plus. Puis... Non, le péché est encore là. Mais on a une approche et une compréhension 100% opposée à celle que nous avions face au péché et aux moyens de le vaincre. Amen. On ne voit plus, là, c'est pas hey, « je vais essayer vraiment fort », non, c'est Christ en moi. Amen. C'est lui la clé de la victoire. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, la vie chrétienne, c'est quoi? À la lumière de ce que je viens de dire, des versets qu'on a là, la vie chrétienne, c'est d'apprendre à vivre en tant que nouvelle création. Car la loi, c'est pour ceux qui sont dans la chair, ceux qui ne sont pas sauvés. La loi a été donnée, c'est un ministère de condamnation pour amener à Christ. Pensez-y, la loi a été donnée pour ceux qui sont dans la chair. Puis des fois, on dit, il faut être précis avec les termes ici. Et c'est important d'utiliser les choses précisément, spécialement ici dans Romains 8. Tu sais, on dit, ah, mettons, j'ai pogné un an, j'étais dans la chair. C'est pas théologiquement précis de dire ça. J'ai agi par la chair, mais être dans la chair, c'est être pas sauvé. Parce qu'on est soit dans la chair, en Adam, ou dans l'esprit, en Jésus-Christ. C'est soit un, soit l'autre. OK? Donc, la loi est pour donner pour ceux qui sont dans la chair, tandis que la grâce est pour ceux qui sont dans l'esprit, qui sont sauvés. Et Romains 8, c'est par rapport à comment apprendre à vivre, pour ça, quand on est dans l'esprit, comment vivre par l'esprit dans cette nouvelle réalité, ou pour prendre les termes du chapitre 7, verset 6, sous ce nouveau régime de l'esprit. En anglais, on dirait « rule of life », régime, c'est la façon de diriger notre vie. C'est plus moi qui est au contrôle, c'est par l'esprit. Parce que comprenez, la vie chrétienne, c'est pas « ok, avant d'être sauvé, j'avais un set de règles qui était comme ça, puis là, mais je suis devenu chrétien, j'ai un nouveau set de règles ». C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie à la lumière de la foi en ce que Christ a fait de moi. Mon adoption, mon statut de régénéré, de vivre en Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ réfère à toute l'idée de ce que nous sommes en lui, et marcher par l'Esprit, ça montre comment on marche à la lumière de ce qu'on est. Il y a un aspect objectif, que Dieu me dit que je suis en lui, mais aussi un aspect subjectif, la vie par l'Esprit. C'est ça beaucoup qu'on voit avec Romains 8. Et ça, c'est en opposition à que j'étais en Adam. Et là, à cause que j'étais en Adam, je vivais par la chair. Autrement dit, lorsqu'on est un enfant de Dieu, notre vie n'est plus centrée sur nous, égocentrique. Les Anglais diraient « self-life », mais on est plutôt avec une vie centrée sur Christ, « Christ-life ». Et ça nous amène maintenant au côté relationnel de Christ, notre identité triomphante. Non seulement il y a une nouvelle loi dans notre vie, mais aussi la vie chrétienne, c'est une nouvelle relation avec un nouveau Seigneur. C'est la deuxième nouveauté. Non seulement on a une nouvelle loi dans notre vie, cette loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort, mais aussi j'ai un nouveau Seigneur. Quand on est un enfant de Dieu, on a le Seigneur de notre vie qui est là. C'est plus le péché, c'est le bon berger. Et on va lire les versets dans un instant, versets 5 à 13, on va les lire à mesure, mais remarquez que le fait d'avoir un nouveau Seigneur, quand on est un enfant de Dieu, on change de Seigneur, on change de maître. Et ça, ça change tout. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous change de l'intérieur, par sa grâce, vers l'extérieur, le fruit de la grâce. Donc, c'est la vie en dedans qui porte le fruit de cette vie. C'est ça toute l'image de Jean 15. Hein? On est attaché au cep. Sa grâce nous a attachés au cep. Et maintenant, cette grâce-là qui nous donne le flot de vie porte du fruit à la gloire de Dieu. Et j'aimerais juste que vous voyez dans les versets 5 à 13, trois ans, si c'est un nouveau Seigneur, ça veut dire qu'il contrôle. Oh, on n'aime pas ce mot-là. Voulez-vous être sous le contrôle de quelqu'un? Ben, pensez-y. Si on n'est pas sous le contrôle du bon berger, de l'esprit de vie qui nous veut tout le temps et juste du bien, on est sous le contrôle soit de nous ou de quelque chose ou quelqu'un d'autre, c'est destructeur et mauvais. Fait qu'on est tout le temps sous le contrôle anyway. C'est pas mal mieux d'être sous le contrôle de l'esprit de vie. Et versets 5 et 7, on est... Le Saint-Esprit contrôle nos affections. Regardez verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. En bonus, la paix. C'est plus que juste la vie, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, si vous voulez, elle est ennemie. Inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans notre vie, il contrôle nos affections, ce à quoi on aspire, là où notre pensée, en anglais, ça dit « mind ». C'est un mot le mot ici pour « affection », c'est un mot qui réfère pas juste à l'idée de nos émotions. C'est ce à quoi on aspire, ce sur quoi notre pensée se porte, puis c'est à ça que j'aspire, c'est ça que je veux, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Le Saint-Esprit, quand il est dans notre vie, il contrôle ça. Fait que c'est pas juste une pensée froid, puis non, c'est une pensée qui nous motive, qui nous dirige. En français on dit affection, en anglais on dit la pensée, mais le mot original amène pas mal le concept des deux. C'est un mot qui est plus riche que juste un ou l'autre pris séparément. Donc ce vers quoi nous sommes portés à nous vouer. Donc, le Saint-Esprit, non seulement il contrôle nos affections, mais aussi il contrôle nos motivations, versets 8 et 9. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc ils peuvent pas, c'est ce que ça veut dire. Ils pourraient pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, la motivation, c'est vivre par l'esprit. Donc, puis on comprend des fois par opposition, vivre par la chair, c'est moi là, je suis motivé parce que moi je veux. J'ai mes ambitions dans la vie, je veux faire ça, je veux le faire de même parce que je me moi, c'est moi qui règne. Mais quand le Saint-Esprit contrôle, il contrôle nos motivations. Puis il nous détrône de notre vie. Et bon, c'est-tu arrivé parfaitement et complètement? Non, on sait tous douloureusement que entre moi et l'Esprit, il y a ce combat-là. Mais encore là, celui qui nous pousse à agir de telle ou telle façon, la source, la force derrière nos motivations, c'est le Saint-Esprit. Plus on laisse, plus on est libre, plus on expérimente la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais en plus, le Saint-Esprit contrôle notre habitation. Il vient habiter en nous, versets 10 à 13. « Et si Christ est en vous, Christ est par son Esprit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Esprit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. » Par son esprit qui habite en vous. Vous voyez comment une fois ça dit habiter, habiter, habiter. Ainsi donc, verset 12. Frères, nous ne sommes point redevables à la chair parce que le nouveau propriétaire a pris le contrôle. Je ne suis plus redevable à l'ancien propriétaire, je suis redevable au nouveau propriétaire, à celui qui a pris habitation en moi. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et on apprend hein, dans 1 Corinthiens 6, 17, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau propriétaire. Et le Saint-Esprit, en demeurant en nous, dans notre corps, il nous contrôle. Il a le droit de résidence, de diriger parce que nous lui appartenons. Et plus, tu sais, comme avec, on peut avoir un mauvais coloc, on a de la misère. Mais si, dans l'humilité et dans la foi, on lui laisse la place, puis on l'accueille, puis on voit à quel point, pensez-y là, ça vient d'où les luttes, les querelles au-dedans de nous autres, des passions dans nos mains, mais pourquoi par rapport à si on parle au Saint-Esprit en nous? Parce qu'on pense pas, ou on croit pas, par orgueil, par incrédulité, que il veut toujours notre bien. Pourquoi on aurait des problèmes avec celui qui habite en nous, si on croit vraiment que ce qu'il veut, c'est toujours notre bien? Pensez à ça parce que je médite beaucoup là-dessus dernièrement. Comment de problèmes avec nos peurs, nos inquiétudes, notre impatience et tout ça vient du fait qu'on n'est pas sécure, solide dans l'amour de Dieu? Si l'Esprit qui habite en moi-même, d'une façon que même je ne peux même pas comprendre, pourquoi je lutterais? Voyez-vous comment c'est insensé? Pourtant, on est tous pareils. Pourquoi? À cause du péché qui est en nous. Mais heureusement, par la foi, en croyant que Dieu est bon, on va se soumettre à son autorité. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, non seulement c'est apprendre à vivre en tant que nouvelle création, mais aussi c'est apprendre à vivre avec une nouvelle autorité. C'est ce qu'on dit quand on dit on reçoit Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ou pour le dire autrement, nouvelle autorité, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand on dit c'est moi qui vis, c'est moi l'autorité, c'est moi qui décide. Mais si c'est Christ qui vit en moi et je vis dans la foi au Fils de Dieu, ma foi se soumet. Ma foi le reconnaît comme l'autorité bienveillante dans ma vie. Ça, c'est la clé, le secret pour vivre, marcher par l'Esprit, la soumission au Saint-Esprit. Et pour ça, ça prend l'humilité. Il faut se confier en l'Éternel de tout notre cœur, puis pas s'appuyer sur notre propre sagesse, le reconnaître dans toutes nos voies. Et oui, il va aplanir nos sentiers. Et aussi, c'est par la foi. C'est par la foi parce que avec la foi, on ne combat pas avec des armes qui sont charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces choses qui sont tellement ancrées, ces façons de penser, ces habitudes, ces choses insurmontables humainement. Bon, on les renverse, les raisonnements et tout autant qu'ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. Comment? Par la foi. Par la foi en celui qui a vaincu, en celui qu'on croit qui nous donne toujours meilleur. Et là, j'ai une application bien importante par rapport à l'autorité, la soumission au Saint-Esprit. La façon de déterminer comment je me soumets au Saint-Esprit qui est en moi si je suis un enfant de Dieu. Puis d'abord, il y a aussi une application pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Évidemment, il y a ma relation directe avec le Saint-Esprit, mais ça va se démontrer dans ma relation, ma réponse aux différentes autorités spirituelles que le Saint-Esprit m'a données. Parents, ben dans le couple, parents, dans l'Église. Parce que c'est facile de jouer à la vie chrétienne pieuse, mais le vrai test, c'est quand les autorités que le Saint-Esprit a données nous confrontent le « moi ». Parce qu'il veut régner, mais là, oups, ça confronte avec ce que moi je veux, ce que moi je voudrais. Le test de la soumission, c'est pas quand on est d'accord, parce que on est d'accord. C'est quand on n'est pas d'accord. Ben, c'est facile de ah, ben oui, moi je suis soumis, je suis d'accord avec la personne. Ouais, mais si t'es pas d'accord, t'es soumis pareil. C'est là le test. Et savez-vous quoi? C'est la réalité des couples, des familles, des églises. Puis, c'est ça l'épreuve de notre foi. C'est de développer la confiance dans l'autorité bienveillante du Dieu qui est au-dessus de cette autorité qui est imparfaite et pas toujours bienveillante. C'est ça la foi, c'est voir, c'est celle qui voit au-delà. Parce que pensez-y, c'est naturel et c'est facile de se plaindre, de regimber contre les autorités déléguées de Dieu. Pensez à Israël, c'était facile de se plaindre contre Moïse et Aaron. Mais de se plaindre direct à Dieu, il se gardait une petite gêne, hein? Ben on est pareil. On n'est pas différent. Mais pourtant, n'est-ce pas ce même Saint-Esprit qui a décidé souverainement, et écoutez bien le mot, unilatéralement. Ça, je veux dire, il n'y a pas... l'ordre, elle va d'un bord, mais elle ne revient pas de l'autre. Il n'y a pas de questions demandées. Donc, le Saint-Esprit a décidé souverainement et unilatéralement de nous donner les autorités qu'on a dans notre vie. Est-ce que ça veut dire qu'on approuve tout ce que ces autorités vont là? Non, parce qu'on est, c'est clair que lorsqu'elles vont contre la parole de Dieu, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais c'est pas la règle la plus... je veux dire, c'est rare que ça arrive. La plupart du temps, c'est pas parce que la personne elle va contre Dieu, c'est plus qu'elle va contre nous. Puis ça, on n'aime pas ça. Puis on aimerait bien ça, c'est toujours un verset pour inclure Dieu là-dedans. Puis... la nature humaine, hein? Donc, une nouvelle loi, un nouveau Seigneur, et ça m'amène à l'apogée. Puis là, on va avoir plus de lectures à faire parce qu'on est juste rendu au verset 13, mais vous allez voir, on va prendre notre temps. Puis c'est tellement un beau passage. Non seulement une nouvelle loi, un nouveau Seigneur, mais dans les versets 14 à 39, une nouvelle vie. Et le verset 14 vraiment résume tout ça, cette nouvelle vie. Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ça résume de manière simple et puissante, c'est quoi la vraie vie chrétienne? C'est quoi la nouvelle vie? C'est conduit par l'Esprit, sous l'autorité de l'Esprit. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit ici dans Romains, nous divise en deux catégories, c'est quoi cette vie? Comment qu'on peut dire qu'elle se caractérise? D'abord, dans les versets 14 à 27, c'est une vie qui est caractérisée en tant que famille, c'est une vie familiale. D'abord, lisons les versets 14 à 17. C'est une vie d'adoption. On est adopté dans la famille de Dieu. On commence à 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous tout le caractère familial? Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, on a toutes les bénédictions d'être dans la famille, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On appartient à Dieu, on est dans sa famille. On a été adopté, on a été fait enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Ensuite, dans les versets 18 à 27, toujours dans l'idée de la famille, mais là, il parle de l'adaptation. Non seulement on est adopté, mais il y a une adaptation à cette famille. C'est une nouvelle famille. On arrive dans une nouvelle famille. Il y a des choses qu'il faut qu'on s'adapte. Et regardez les versets 18 à 22. Par rapport à la création, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas que depuis qu'on est un enfant de Dieu, on soupire avec le reste de la création? On sait, ça tourne pas rond dans ce monde. Ce monde est déchu, le péché a détruit ce monde. Puis, ça fait partie de cette adaptation. Attends un peu, là, ce monde-là, quelqu'un me disait ça dernièrement. Voyons, le monde, c'est comme plus ma place. J'ai comme plus ce sentiment, je suis plus d'ici bas, je suis citoyen des cieux, n'est-ce pas? Et la création même rend témoignage de ça. Le chrétien aussi, verset 23 à 25, rend aussi témoignage de ça. Ce n'est pas elle seulement, la création seulement, mais nous aussi, les chrétiens, les enfants de Dieu qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, hein, notre corps qui est attaché à cette terre, puis tout ça, la maladie, les douleurs, toutes sortes de choses, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, le chrétien aussi soupire. Depuis qu'on est dans la famille de Dieu, on a en nous des nouvelles aspirations à plus grand, à mieux dans ce monde. Pensez que même si notre homme intérieur se détériore, notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On soupire après cette pleine délivrance, cette rédemption de notre corps. Et même le Consolateur, l'Esprit de Dieu lui-même, fait partie de toute cette belle dynamique-là familiale. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le troisième qui soupire, la création de nous-mêmes, puis même l'Esprit. Des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tout ça nous enseigne que la vie chrétienne, c'est apprendre à vivre avec des nouvelles relations. On ne se rattache plus, on n'a plus la relation avec le monde comme avant. Avec le monde, avec les chrétiens, avec Dieu lui-même. Tout est différent. Toutes nos relations sont affectées par le fait qu'on est maintenant adopté dans la famille de Dieu. N'est-ce pas vrai? Tout a changé. Il y en a ici, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps que vous êtes rendu compte. Il y en a que ça fait des années et ça n'a toujours pas changé. Pourquoi? Parce que c'est une réalité éternelle. Les enfants de la rédemption, rachetés, ceux d'une nouvelle création en Jésus-Christ. Cette adoption dans la famille de Dieu, cette adaptation qui va avec et qui s'ensuit du fait qu'on est adopté, ça nous rappelle que la restauration dont on bénéficie en Jésus-Christ, elle est complète. Elle affecte tous les aspects de notre vie. Puis, c'est dû au fait que là, tu sais, nous autres avant, là, on cherchait dans ce monde à être accepté, à avoir une sécurité, à être aimé, à être reconnu comme ayant de la valeur. Puis qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait du rejet, de la honte, de la peur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on l'a trouvé. On a trouvé, on est dans la famille de Dieu. Et chérissez ça, mes amis, c'est pas rien. Quand ça va mal, c'est à ça qu'on doit se racheter. On est dans la famille de Dieu. Dieu a chassé toutes ces choses de notre vie, la honte, la peur et le rejet, puis l'a remplacé par l'acceptation, la valeur et la sécurité. Et au verset 23, on voit qu'on goûte à ça ensemble. Hein? Ça dit, et ce n'est pas elle seulement, la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Oui, on a été sauvés de la condamnation de nos péchés, de tous nos péchés, et maintenant, dans notre vie, par la grâce de Dieu, il nous délivre de la puissance du péché. Mais un jour, on va être dans la présence même de Dieu, il n'y aura même plus de péché, plus de présence du péché. Et ça, n'est-ce pas après ça qu'on soupire? N'est-ce pas l'intrus de nos vies qui gâche dans tout? Puis en nous, c'est pas toute la faute des autres, on le sait bien, hein? Même quand on essaie d'aller là, ça marche pas, on devient misérable. Et ça, c'est unique aux enfants de Dieu. C'est pas une religion, c'est pas une bebelle, une gamique, c'est pas une version améliorée d'une vieille religion. C'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ça nous remplit d'assurance. Pourquoi? Parce que ces choses qui nous rabaissaient ont perdu leur emprise sur nous autres. Et ça nous amène à la fin climatique, si je peux dire. Ça se dit-tu en français? Je parle pas de climato-sceptique, là. Climactic end. L'apogée, le paroxysme de ce chapitre dans les versets 28 à 39. Parce que là, on a vu une vie qui est caractérisée par la famille, l'appartenance à Dieu, mais aussi, dans ces derniers versets, c'est une vie qui est caractérisée par la sécurité. On est sécure, parfaitement sécure. C'est pour ça qu'on aime donc ce chapitre-là, parce que ça commence avec pas de condamnation, puis ça finit avec pas de séparation. On est dans une sécurité qui fait que rien, puis ça fait le tour, vous allez voir, peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. D'abord, savez-vous que les chrétiens sont prédestinés à la gloire? Versets 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Savez-vous, pour Dieu, là-dedans, passé, présent, futur, là, pour lui, c'est tout déjà réglé. Qu'on parle de l'éternité, de la prédestination jusqu'à glorifier, quand on va être dans la présence de Dieu, pour Dieu, c'est déjà réglé. On est en parfaite sécurité et on est prédestiné à cette gloire. Et rien de ce que Dieu permet dans notre vie n'échappe à son contrôle, à son amour souverain et bienveillant. Je vous dis, là, qu'on demande à Dieu qu'il nous révèle la beauté, la puissance de cet amour souverain, bienveillant. Ça m'amène au verset suivant, où est-ce qu'on voit que le chrétien, non seulement il est prédestiné à la gloire, mais aussi il est préservé pour la gloire. Savez-vous, si le salut dépendait de nous autres, il n'y a pas personne qui se rendra au ciel. Si on pouvait perdre notre salut par nos œuvres, on resterait pas plus sauvé que si on essayait de gagner notre salut par nos œuvres. Parce que, je veux dire, on n'est juste pas capable, c'est impossible. Et c'est vraiment la note de triomphe sur laquelle on voit que Christ, notre identité, elle est triomphante. Christ, notre nouvelle identité. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vraiment sur cette note d'espérance que ça termine. Regardez les versets 31 à 32, on voit le fondement de cette espérance. 31. J'ai-tu lu 20? Oui, j'ai lu jusqu'à 30. Fait que c'est, on est rendu à 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Le fondement de notre espérance, c'est Dieu lui-même et l'œuvre parfaite de son Fils. Ce n'est pas une théorie, des idées, c'est l'œuvre de Christ accomplie au calvaire. C'est l'amour de Dieu qui est prouvé par la croix du calvaire. Et on peut lire au verset 33 à 34 la plénitude de notre espérance. Non seulement il y a un fondement éternel par l'œuvre parfaite de Christ, mais regardez aussi comment c'est une espérance qui est pleine. D'abord parce qu'on voit que l'ennemi est complètement vaincu. C'est une défaite complète. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Puis regardez au verset 34, qui le condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est là à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'ennemi a été complètement vaincu, Dieu a justifié, on ne peut plus être accusé parce que Dieu nous a déclaré juste, mais en plus, Christ, il nous défend constamment, il est notre avocat auprès du Père, il intercède pour nous. On voit la défaite complète de l'ennemi et nous, on a une défense complète de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre intercesseur auprès du Père. Puis regardez la finalité de cette espérance. C'est vraiment là où est-ce que cette espérance, elle est scellée. Il n'y a aucun ennemi qui peut nous séparer de cet amour de Dieu. Regardez verset 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire ça? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril? Puis là, quelqu'un pourrait dire, comment ça qu'il dit ça? Parce que c'est la vie des enfants de Dieu à travers les époques. Et ça, c'est une citation d'un psaume. C'est pas même avant la croix, le temps de l'Église. Déjà, c'était la vie des enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'y a aucun ennemi qui peut nous séparer de cet amour de Dieu. Puis il n'y a aucune peur non plus, verset 38, car j'ai l'assurance. L'assurance, c'est l'inverse de la peur. Quand on a peur, on n'est pas sûr de rien. Mais quand on est assuré, ça chasse la peur, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Puis là, je ne sais pas, j'aurais pu mettre d'autres choses, mais ça veut dire vraiment tout, OK? Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien, mais absolument rien, qui peut nous assaillir. Pourquoi? Parce que Christ est notre identité triomphante. Triomphante. Et ma question pour terminer, est-ce que tu possèdes cette sécurité, cette assurance devant Dieu de façon inébranlable? Puis je vous dirais, si ça dépend à quelque façon de vous autres, c'est pas inébranlable. Mais si c'est Christ, le roc éternel, inchangeable, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis son œuvre rédemptrice parfaite, si votre confiance est basée sur ça, sur l'œuvre du Dieu trinitaire, c'est pour ça que ça peut être inébranlable, parce que lui ne change jamais. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, c'est en lui que vous devez mettre votre confiance pour le salut de votre âme. Et on fait toujours un appel au salut lorsque on a le message du dimanche matin. Et je lance l'appel selon ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5. Et l'appel commence avec d'abord la déclaration de ce qu'on est en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ça, c'est les enfants de Dieu, ils s'adressent à nous qui avons la vie. Mais nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que tu peux dire que devant Dieu, tu te tiens dans une parfaite justice, aucune condamnation? La seule façon de répondre par l'affirmative et de manière assurée, c'est si ta confiance est dans l'œuvre parfaite de Christ. Est-ce que tu as mis ta foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Attends pas demain, tu ne sais pas ce que le jour de demain peut te réserver. Et pour les enfants de Dieu aussi, qui sont ici ce matin, pourquoi est-ce qu'on vivrait dans l'esclavage de notre chair, du rejet, de la honte et de la peur, lorsque nous connaissons le Rédempteur, celui qui restaure. Et pourquoi on serait dans l'esclavage alors que on a déjà tout pleinement? Il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a une nouvelle loi pour notre vie, une loi supérieure, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Cette loi de vie expulse la mort de nos vies. On a un nouveau Seigneur, le Seigneur de la vie, le Prince de la vie, le Prince de la victoire qui contrôle notre vie de façon bienveillante et souveraine pour que toute notre vie nouvelle que nous avons en lui puisse porter du fruit à sa gloire. Il nous manque absolument rien. C'est à lui que je désire qu'on termine en portant les regards, en mettant notre confiance. La seule chose appropriée à faire en réponse avec un si grand Dieu qui a fait une si grande œuvre, c'est dans l'humilité puis la foi d'exprimer notre reconnaissance, notre confiance et se réjouir dans un si grand salut, un si grand Dieu qui nous a fait grâce. Amen.
Amen.
Merci Seigneur, on est content de considérer ensemble en tant qu'Église ces vérités précieuses de ta parole. Merci pour l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ dont on a vu la totale culmination. On a considéré, pour ainsi dire, la fin de l'histoire. Tout finit bien. Triomphe total, parfait et complet par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Esprit du Dieu vivant d'habiter en nous, d'être notre nouvelle autorité bienveillante et Seigneur, humblement et par la foi, Seigneur, on vient se soumettre à toi. Même si des fois, quand il y a des humains que tu utilises dans cette autorité, on a de la misère, Seigneur, on veut voir au-delà. On veut regarder à toi, qui est capable même de prendre la faiblesse humaine, l'imperfection humaine, pour accomplir tes plans souverains et parfaits. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur pour nous rencontrer, être là au milieu de nous. Merveilleux et fidèle, on est comblé. On te loue Seigneur. Dirige la réponse de ton peuple à ce que tu nous as dit ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.